Il est 11h30 en temps universel, une heure de plus ici à Paris. Vous écoutez RFI.
RFI Midi, Clotilde Dumais.
Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour le début de RFI Midi, deux heures pour faire le tour du monde avec nos reportages, nos correspondants, nos invités, nos journaux. Nous sommes le 29 janvier 2025 et c'est une soirée de football exceptionnelle qui vous attend sur RFI, émission spéciale dès 19h40 temps universel pour vivre les 18 matchs de Ligue des Champions qui vont se jouer en même temps pour la dernière journée de la phase de poule. Le suspense est total, certains grands clubs sont en danger. On va retrouver dans quelques instants à Stuttgart et à Guingamp, les envoyés spéciaux de RFI qui vont vous faire vivre cette folle soirée. L'Europe qui cherche par ailleurs sa place sur la scène internationale entre les États-Unis et la Chine notamment. À Bruxelles va dévoiler sa feuille de route pour améliorer sa compétitivité. Explication à suivre. Que va-t-il se passer en Serbie désormais? Situation politique incertaine au lendemain du départ du Premier ministre. Les manifestants qui se mobilisent depuis 3 mois contre le gouvernement envisagent éventuellement de poursuivre la mobilisation.
À la démission du Premier ministre me semble être une tentative de faire baisser la tension alors qu'il ravive cette tension chaque jour. Les étudiants ne cesseront pas leur mouvement tant que toutes les revendications ne seront pas acceptées.
La correspondance depuis Belgrade à suivre dans cette première demi-heure. C'est l'une des conséquences de l'arrivée de la nouvelle administration Trump. Les États-Unis ont gelé leur aide étrangère au développement, décision qui pourrait avoir des conséquences par exemple en Ukraine et puis dans la lutte contre le VIH, puisque cette décision concerne le PEPFAR, le plan américain d'aide d'urgence à la lutte contre le sida à l'étranger. Beaucoup de pays en dépendaient, alors quelles conséquences ce gel des financements va-t-il avoir? On en parlera vers 12h15 TU avec Eric D'Ortenzio, médecin épidémiologiste à l'ANRS Maladies Infectieuses Émergentes de l'INSERM. Ensuite, ce sera Afrique Midi, l'occasion de revenir sur la situation notamment en République démocratique du Congo. Et puis dans la tranche Amérique, interview avec Bertrand Monnet, spécialiste de l'économie du crime. On va revenir avec lui sur une autre décision de Donald Trump qui veut désigner certains cartels comme des organisations terroristes. Alors, est-ce possible? Qu'est-ce que cela pourrait changer? Peut-on aller jusqu'à envisager une intervention militaire par exemple au Mexique, où ces cartels sont particulièrement présents? Ce sera à suivre à partir de 13h. TU, voilà pour le programme de ces deux prochaines heures sur RFI.
RFI à Paris, 89 FM.
18 matchs simultanés, 36 équipes de football sur la pelouse, en même temps soirée inédite. Donc pour conclure la première phase de cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Les enjeux sont très importants puisque ce soir, on connaîtra les 8 premières équipes directement qualifiées pour les 8e de finale. Pour celles ensuite qui seront classées jusqu'à la 24e place, eh bien, il faudra passer par des barrages. Et pour les autres, la compétition s'arrêtera tout simplement là. Quelques grands clubs européens sont d'ailleurs en danger. C'est le cas notamment de Manchester City et puis du Paris Saint-Germain. Cédric de Oliveira, vous êtes en direct de Stuttgart en Allemagne. Bonjour.
Bonjour Clotilde.
Stuttgart, où l'on accueille donc ce soir le PSG, qui en cas de défaite sera carrément éliminé.
Oui, alors ce n'est pas encore fait effectivement pour le Paris Saint-Germain. Après avoir surclassé Manchester City 4-2 au Parc des Princes la semaine dernière, on peut considérer qu'il a fait le plus dur, mais il reste un match dans cette dernière journée pour assurer le coup. Ce déplacement à Stuttgart avec 10 points en 7 journées et une 22e place provisoire du classement. On ne peut pas dire que le bilan soit très reluisant si on prend l'ensemble de la compétition pour ce PSG. Le constat, c'est que Paris n'est pas encore qualifié. Il lui manque un point au moins. Une défaite lui suffirait selon certains scénarios, mais il ne serait plus maître de son destin et à la merci d'autres résultats défavorables dans cette soirée, vous l'avez dit, à 18 matchs en simultané. En tout cas, sur ce qu'on a vu la semaine dernière, eh bien, les Parisiens partent favoris face à une équipe de Stuttgart dont il faudra se méfier. Ce n'est pas le Bayern Munich, ce n'est pas Dortmund, mais elle est vice-championne d'Allemagne en titre et elle a aussi besoin au moins d'un point pour poursuivre son aventure européenne. Si ça passe pour les Parisiens, ça ferait un carton plein pour les clubs français engagés en Ligue des Champions. Les quatre seraient assurés d'être dans les 24 premiers et donc qualifiés au moins pour les barrages.
Et les trois autres en question, effectivement, c'est Lille, Monaco et Brest. Thomas de Saint-Léger, vous êtes à Guingamp, à l'ouest de la France. Bonjour.
Bonjour Clotilde.
Où Brest va donc jouer ce soir et là, ce sera contre le Real Madrid, carrément le champion d'Europe en titre. Choc des extrêmes, événement qui est évidemment très attendu, hein, où vous vous trouvez.
Oui, 15 000 personnes seulement auront la chance d'être en tribune, principalement des supporters venus de Brest, à une centaine de kilomètres d'ici. Mais à Guingamp, c'est quand même le match du siècle. La première visite du Real Madrid en Bretagne, Mbappé, Bellingham, Modric, toutes les stars, tous les joueurs madrilènes sont arrivés hier dans un petit aéroport de la région avec déjà un comité d'accueil, des centaines de personnes venues essayer de les apercevoir. La scène s'est répétée un peu plus tard à Saint-Brieuc, pas très loin de Guingamp, où les joueurs ont pris leur quartier avec des supporters tenus à distance. Un dispositif spécial, barriérage devant l'hôtel, très peu d'échanges. Finalement, un petit salut de la main furtif, c'est tout. Ça fait vraiment visite royale en terre populaire. C'est, on le sent, la rencontre de deux mondes, de deux footballs, et ça donne des scènes assez cocasses d'ailleurs, comme par exemple la conférence de presse de Carlo Ancelotti hier, l'entraîneur madrilène, dans un petit chapiteau préfabriqué qu'on sentait vraiment trembler à chaque rafale de vent.
Alors, est-ce que les Matrilènes, justement, pourraient trembler face à Brest, Thomas? Les Brestois qui pour l'instant, sont devant le club espagnol au classement de la Ligue des Champions.
Ouais, c'est fou, mais c'est vrai, Brest compte un petit point de plus que le Real, tenant du titre, 15 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Brest, pour sa première participation, a étonné toute l'Europe du football. Et Brest, finalement, n'a pas grand-chose à perdre. Hein. Si la logique est respectée, le Real, avec un Kylian Mbappé en grande forme en ce moment, va l'emporter. Mais cette défaite, de toute façon, ne serait pas éliminatoire pour les Bretons, qui donc vont pouvoir jouer assez décomplexé face à une équipe qui ne sait pas grand-chose. Chose d'eux, on l'a senti hier dans les interviews, Thibaut Courtois, le gardien du Real, ne disait connaître qu'un seul joueur brestois. Alors pourquoi pas compter sur ça, sur l'effet de surprise, sur l'excitation aussi de participer à une rencontre qui restera forcément à part dans leur carrière.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à Guingamp, comme d'ailleurs partout en Europe, hein, les dernières minutes vont être bouillantes. Hein, Cédric, de votre côté aussi, on va jeter des coups d'œil évidemment sur tous les stades en même temps ce soir.
Oui, c'est le principe effectivement de cette soirée inédite, vous le disiez, 18 matchs en simultané et donc beaucoup d'incertitudes. C'était la volonté de l'UEFA hein, de pouvoir eh bien rajouter de l'incertitude dans cette dernière journée. Outre le PSG, certains clubs ne sont pas assurés de continuer l'aventure. Battu la semaine dernière à Paris, Manchester City doit absolument s'imposer contre Bruges pour être barragiste. Une formalité il y a quelques mois, mais l'équipe de Pep Guardiola est tellement en souffrance en ce moment qu'on se demande si elle en sera capable. D'autres tâcheront de se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Ça concerne les huit premiers du classement. Pourquoi pas Lille, 12e avec 13 points qui affronte le Feyenoord Rotterdam. Ou encore Monaco en déplacement à l'Inter Milan. Et puis il y a cette fameuse première place entre Liverpool ou le Barça convoité par les deux clubs. Donc les Reds, 7 victoires en 7 matchs iront au PSV Eindhoven. Les Catalans pourraient profiter d'une défaite des Reds s'ils s'imposent face à l'Atalanta Bergame. Match qui aura lieu à Barcelone.
Cédric De Oliveira, donc en direct de Stuttgart, et puis Thomas de Saint-Léger à Guingamp. Vous allez donc nous faire vivre tous les deux cette soirée de football exceptionnelle sur RFI. Ce soir, émission spéciale, je vous le rappelle, à partir de 19h40 et jusqu'à 22h12 en temps universel.
RFI midi. L'Europe à midi.
Comment peser dans la course à l'économie mondiale? La Commission européenne va dévoiler aujourd'hui sa boussole pour la compétitivité. Une feuille de route pour dessiner les grands chantiers de ces 5 prochaines années. Bonjour Nicolas Feldman.
Bonjour Clotilde.
Avec tout d'abord un objectif, hein, Nicolas, ne pas se laisser distancer par la Chine ou les États-Unis.
Oui, innovation, croissance, compétitivité face à l'agressivité commerciale de Donald Trump, face à la concurrence débridée de la Chine. L'Europe est à la traîne, c'est ce que rappelait en septembre le rapport de Mario Draghi, l'ex-premier ministre italien, qui préconisait alors des investissements massifs dans une série de secteurs stratégiques comme l'intelligence artificielle, mais aussi plus de souplesse, moins de règles pour rendre les entreprises européennes plus compétitives.
Et sur ce dernier point, Mario Draghi semble avoir été entendu, puisque la Commission européenne doit s'inspirer de ce rapport avec une priorité, Nicolas, placer les entreprises au cœur du quinquennat d'Ursula von der Leyen.
Une Europe moins bureaucratique, plus efficace, la Commission veut mener un choc manque de simplification. L'idée, explique-t-on à Bruxelles, c'est d'envoyer un message pro-business aux investisseurs tentés par les États-Unis de Donald Trump. Pour cela, la Commission prévoit donc un plan en deux volets. D'abord, une grande loi pour mener ce choc de simplification. Viendra ensuite un pacte pour une industrie propre, texte qui doit soutenir les secteurs clés en difficulté comme l'automobile ou la chimie. L'objectif de Bruxelles, il est ambitieux, réduire de 25% la charge bureaucratique des entreprises et même de 35% celle des PME.
Et pour être compétitive, l'UE compte aussi sur une énergie moins chère.
Oui, car depuis la guerre en Ukraine, l'Europe paie son énergie près de 3 fois plus cher que les États-Unis. Pour sauver son industrie, l'UE veut donc réduire sa dépendance aux énergies fossiles. La Commission ambitionne aussi de fixer par exemple des prix de l'électricité communs et de faire en sorte de mieux stocker l'énergie.
Alors autre volet, Nicolas, celui de la souveraineté, l'Europe là aussi veut réduire sa dépense.
Et notamment vis-à-vis de la Chine, sur la question des métaux rares indispensables pour mener la transition énergétique. C'est pourquoi la Commission entend là rouvrir certaines mines. Elle a déjà reçu 170 projets d'exploitation ou de recherche minière, des projets souvent contestés localement pour leur impact environnemental.
Ces 5 prochaines années que la Commission veut tourner vers les entreprises, mais qui risquent de se faire, Nicolas, au détriment de l'environnement.
Parce que les textes sur le climat de ces dernières années sont dans le viseur des entreprises, ce qui inquiète les défenseurs de l'environnement. Dans l'immédiat, ce sont 3 textes qui pourraient être menacés. Le premier, il fixe les objectifs de durabilité des entreprises. Le second, il impose aux sociétés de veiller aux pratiques de leurs sous-traitants. Enfin, le dernier texte, c'est celui sur la taxonomie qui définit les investissements verts dans l'UE. Le vice-président de la Commission européenne, le français Stéphane Séjourné, a tenté de rassurer les écologistes. Il leur promet un choc de simplification sans toucher aux objectifs environnementaux.
Les explications de Nicolas Feldman, merci beaucoup.
RFI Midi, Clotilde Dumais.
Le jour d'après en Serbie, 24 heures après la démission du Premier ministre Milos Vucevic, la tension reste palpable dans le pays. Les manifestants qui accusent le gouvernement de corruption ne semblent pas forcément vouloir mettre fin au mouvement qui dure depuis bientôt 3 mois après l'effondrement d'un auvent de la gare de Novi Sad et la mort de 15 personnes. Les contestataires attendent de voir ce que pourrait changer l'arrivée du nouveau gouvernement. Correspondance à Belgrade de Laurent Rouy.
La démission surprise du Premier ministre serbe Milos Vucevic montre que la protestation étudiante contre la corruption peut porter ses fruits. Pourtant, cet étudiant ne veut pas interrompre les blocages universitaires car les 4 revendications du mouvement ne sont pas exaucées.
La démission du Premier ministre me semble être une tentative de faire baisser la tension alors qu'il ravive cette tension chaque jour. Les étudiants ne cesseront pas leur mouvement tant que toutes les revendications ne seront pas acceptées.
L'opposition veut saisir l'opportunité de la démission du Premier ministre pour former un nouveau parlement, comme l'explique Miroslav Aleksić, un leader de l'opposition.
La seule solution est de nommer un gouvernement de transition dont le premier objectif sera de remplir toutes les revendications des étudiants et ensuite d'organiser des élections libres et transparentes.
Mais pour le président Aleksandar Vučić, pas question d'accéder aux revendications de l'opposition. La Constitution lui donne le choix et il compte bien garder cet avantage.
J'ai vu qu'il existe des génies qui affirment que les assemblées étudiantes doivent désigner le futur gouvernement. Mais il faut maintenant décider ou de former un nouveau gouvernement ou d'organiser de nouvelles élections. Personnellement, je suis ouvert aux 2 options.
Le bras de fer entre le pouvoir et les protestataires continue donc sans que l'on puisse encore voir la fin de la crise qui paralyse la Serbie. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Et les contestataires qui se sont déjà donné rendez-vous à Novi Sad samedi pour un grand rassemblement à l'occasion des 3 mois de l'accident.
RFI Midi.
C'est une bataille que l'opposition turque mène depuis plusieurs années. Depuis qu'une hyperinflation mine le pouvoir d'achat des familles et rend les pauvres encore plus pauvres. La revendication est simple, que l'État fournisse un repas gratuit par jour à tous les écoliers. Une demande qui cache un problème douloureux pour beaucoup de parents, la malnutrition croissante chez les enfants turcs qui se serait aggravée et propagée sous l'effet de la crise économique. À Ankara, reportage d'Anne Andlauer.
Zeynep Djoulayeter se souvient des premières années de son fils à l'école comme d'une période de stress et de fatigue intense. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas la classe ou les autres enfants, non. Ali Ege, son fils, rentrait de l'école affamé. Comme dans l'immense majorité des écoles publiques de Turquie, la sienne n'avait pas de cantine. Pour manger le midi, il fallait soit ramener un sandwich de la maison, soit acheter un toast au fromage à la cafétéria de l'établissement. Du haut de ses 6 ans, Ali Ege faisait les deux. Et à force de manger des toasts et des sandwichs, sa santé s'est dégradée, comme l'explique sa maman.
Qu'arrive-t-il quand un enfant ne mange pas assez et pas assez bien ? Eh bien, mon fils était souvent malade. Son système immunitaire était moins résistant. Il avait plus de mal à suivre ses leçons, à jouer avec ses amis, à jouer tout court, à courir. Tout est allé de plus en plus mal, y compris sa croissance. Sa prise de poids s'est ralentie et il a quasiment arrêté de grandir. Parce qu'en réalité, il ne mangeait quasiment rien entre le petit déjeuner et le repas du soir, son seul vrai repas de la journée.
Zeynep, qui est institutrice dans l'école de son fils, raconte que tous les enfants avaient les mêmes problèmes. Alors, il y a 2 ans, un groupe de parents a fait pression sur la direction pour qu'un service de cantine soit assuré le midi. Mais ce n'est pas gratuit. Zeynep doit payer 100 euros par mois, ce qui représente un bon 10e de son salaire d'enseignante. Elle dit que son fils va nettement mieux depuis, sur tous les plans. Elle dit aussi qu'il a de la chance, que les parents de plus de la moitié des élèves de l'école n'ont pas assez d'argent pour payer la cantine. Pour ses enfants, rien n'a changé, c'est toast ou sandwich.
L'odeur des repas parvient jusqu'aux classes et mon fils m'a souvent demandé « Maman, est-ce que tu penses que les copains qui ne mangent pas à la cantine sont tristes ?» Ça me conforte dans l'idée qu'il faudrait que ces repas soient accessibles à tous. Oui, mon enfant mange bien désormais, mais qu'en est-il des autres enfants ? Et je vous parle là d'une école au centre d'Ankara, la capitale de la Turquie. Qu'en est-il des écoles dans les villages, dans d'autres villes ou d'autres régions plus défavorisées ? La pauvreté a énormément progressé ces dernières années partout dans le pays. Il y a plein de familles qui n'arrivent pas à offrir ne serait-ce qu'un repas équilibré à leurs enfants chaque jour.
L'histoire de Zeynep met le doigt sur un problème lancinant qui a pris une ampleur nouvelle avec la très forte inflation des dernières années en Turquie. Une bonne partie des 16 millions d'enfants scolarisés dans les écoles publiques du pays, contre 1,5 million dans des écoles privées, ne mangent pas à leur faim ou mangent mal. C'est la définition de la malnutrition. C'est aussi le constat de nombreux syndicats d'enseignants et de parents. Difficile de donner des chiffres. Le gouvernement turc ne publie pas d'études sur le bien-être des écoliers. Mais il y a quand même quelques pistes. Dans la dernière enquête PISA, une enquête de l'OCDE qui compare les performances des systèmes éducatifs de plus de 80 pays, en 2022, 19% des écoliers turcs déclaraient sauter au moins un repas par semaine par manque d'argent. La moyenne de l'OCDE était d'environ 8%. Autre indice, selon la fondation TEPAV, en 2023, environ 35% des enfants turcs vivaient en situation de pauvreté, 2 points de plus que 2 ans plus tôt. Une coalition de partis d'opposition et d'ONG fait campagne ces derniers mois pour que l'État assure un repas gratuit chaque jour aux enfants des écoles publiques. Pour Hulya Darandevici, représentante de l'association de parents d'élèves Velider, c'est une question de santé publique et d'égalité.
Dans notre pays, les inégalités continuent de se creuser entre les écoles publiques et les écoles privées. Les parents qui en ont les moyens peuvent envoyer leurs enfants dans une école privée, où ils mangent des repas chauds et équilibrés. Mais la grande majorité des habitants de ce pays gagnent le salaire minimum qui est actuellement d'environ 600 euros. Ces parents-là n'ont aucune chance d'envoyer leurs enfants dans une école privée. Ils n'ont pas d'autre choix que l'école publique. L'État devrait répondre aux besoins de tous les enfants, a fortiori dans les écoles publiques.
Mais le gouvernement refuse fermement de fournir un repas gratuit aux enfants de ces écoles. La raison avancée est toujours la même, cela coûterait trop cher, en particulier en ces temps de restrictions budgétaires. Hulya Darandevici n'en croit pas un mot.
Nous vivons à l'époque d'Internet, des voyages spatiaux, de l'intelligence artificielle. N'est-il pas honteux et douloureux, dans une telle époque, de ne pas avoir encore résolu le problème de la malnutrition des enfants ? C'est d'autant plus vrai que notre pays est suffisamment fort et prospère pour résoudre ce problème. Tout dépend de ce à quoi vous choisissez de consacrer des ressources, un budget. Tout comme l'éducation est un droit, chaque enfant a le droit d'être nourri correctement.
Il n'y a pas que la nourriture. Dans la très grande majorité des écoles publiques turques, les enfants n'ont pas accès gratuitement à l'eau potable. Ils n'ont que l'eau du robinet, qui n'est pas toujours saine à cause du mauvais état général des canalisations, ou l'eau vendue en bouteille dans l'école. Ou bien, comme le fils de Zeynep, ils transportent dans leur cartable l'eau dont ils ont besoin. Anandloer Ankara, RFI.
Et c'est un reportage à retrouver en intégralité ce soir dans Accent d'Europe à 19h10, temps universel sur RFI.
RFI Midi. Un monde de tech.
À moins d'un mois des élections législatives anticipées en Allemagne, une tentative d'ingérence numérique vient d'être révélée. Le média allemand Corrective et l'organisation américaine NewsGuard ont récemment démontré l'existence d'un vaste réseau de désinformation pro-russe. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Clotilde.
Alors cette opération complexe repose en fait sur une galaxie de faux médias destinés à influencer le vote des électeurs.
Oui, au total, plus d'une centaine de sites internet germanophones sont suspectés d'avoir diffusé des fausses informations en lien avec ce scrutin. Ces sites, toujours actifs pour certains, tentent de se faire passer pour des médias de confiance. Pour ça, ils imitent la charte graphique de médias allemands réputés et adoptent des noms volontairement trompeurs. Certains ont par exemple réutilisé l'identité de journaux locaux historiques, mais qui n'existent plus aujourd'hui. Le but, c'est de tromper la vigilance des internautes avec de faux médias générés en seulement quelques clics.
Alors, qu'est-ce qu'on retrouve concrètement sur ces sites internet ?
Eh bien, la majorité des contenus sont soit générés par des outils d'intelligence artificielle générative, type ChatGPT, Claude ou Perplexity, soit des copier-coller d'articles publiés dans de vrais médias allemands. Cela permet de faire croire à tort qu'une rédaction de journalistes travaille pour alimenter le site en question. Et puis parmi ce flux d'informations, eh bien on retrouve des infox, des messages de propagande politique et de nombreux contenus pro-russes.
Et quelles sont les cibles de cette opération de désinformation ?
Alors, l'analyse de ces sites internet montre que ce réseau s'attaque ouvertement aux partis traditionnels. Robert Habeck, le candidat des Verts, et Friedrich Merz, le patron des chrétiens démocrates, sont systématiquement présentés de manière négative. Leur soutien affiché à l'Ukraine est notamment vivement critiqué. A l'inverse, la chef du parti d'extrême droite AFD, Alice Weidel, activement soutenue par Elon Musk, est constamment mise en avant de manière positive. Beaucoup de contenu désinforme aussi sur la politique d'immigration allemande. L'une des infox poussées par cet écosystème de faux médias affirme par exemple que l'Allemagne envisagerait d'importer près de 2 millions de travailleurs kényans. Sauf que c'est faux, cette infox a été fabriquée de toutes pièces dans le but de pousser les électeurs dans les bras de l'extrême droite.
Alors chose importante, Grégory, ce n'est pas la première fois que l'on est confronté à ce mode opératoire.
Non, un réseau similaire de faux médias alimentés par l'IA et diffusant de la désinformation avait déjà été épinglé en 2024 pendant les élections américaines. Un ancien policier américain vivant en Russie depuis 2016 est accusé d'être l'auteur de cette campagne de désinformation aux États-Unis. Et en croire les analystes de Corrective et de NewsGuard, John Mark Dugan, c'est son nom, serait également à l'origine de ces 102 faux sites internet ciblant l'élection allemande. L'ex-shérif, considéré comme l'un des propagandistes russes les plus actifs, avait aussi ciblé la France durant les Jeux Olympiques, souvenez-vous, avec une vidéo faussement attribuée au Hamas.
Et dernière chose, est-ce qu'on sait qui finance ces opérations ?
Eh bien, selon le Washington Post, qui a eu accès à des documents des renseignements européens, John Mark Dugan aurait été directement payé par un officier du GRU, la Direction Générale des Renseignements des Forces Armées Russes. Cet agent servirait dans la célèbre unité 29-155, spécialisée dans les opérations de sabotage, d'ingérence politique et de cyberguerre ciblant l'Occident.
Merci beaucoup Grégory Genevrier pour un monde de tech.
RFI Midi.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
C'est l'une des sorties ciné de la semaine en France. La Pivoleuse, nouveau film de Robert Guédiguian à voir dès aujourd'hui. Le réalisateur marseillais parle de précarité, de solitude, d'accès à la culture. Un film qui regroupe ses préoccupations sociales et son amour pour le soleil et les paysages du sud-est de la France. Robert Guédiguian est au micro de Lisa Giroldini.
Robert Guédiguian, bonjour.
Bonjour.
Votre nouveau film, La Pivoleuse, raconte l'histoire de Maria, une auxiliaire de vie précaire qui vole quelques euros régulièrement aux personnes âgées dont elle s'occupe. Déjà, tout simplement, comment vous est venue cette idée ?
C'est très très simple en fait. C'était mon chef monteur, lorsque nous montions le film précédent, a eu un coup de téléphone, il décroche et... C'est le commissariat, et je le vois qui dit, mais non, je connais très bien cette dame, elle est formidable. Ça fait 20 ans qu'elle s'occupe de ma mère, je l'aime beaucoup. Non, elle m'a rien volé, voilà, moi je la garantis. Bon. Et il raccroche, il me raconte cette histoire de l'aide ménagère de sa maman, qui était au commissariat. Si quelqu'un avait déposé une plainte contre elle. Et voilà, c'est venu de là, je me suis dit, tiens, si on inventait effectivement donc une histoire à partir de là, Et à partir de là, le récit commence, hein, puisque dans le film, évidemment, on dit pourquoi.
On remarque que les maisons, les jardins, les intérieurs sont toujours très soignés avec une belle décoration. Pourquoi c'est un aspect que vous avez particulièrement travaillé ?
Les travailleurs modestes, en général, sont des gens extrêmement attentifs à leur intérieur. Ils soignent leur intimité et ils essaient effectivement de le rendre le plus agréable possible. Chez certains personnages, avec, je trouve, quelques erreurs, bien sûr, parce que les erreurs viennent du fait, d'ailleurs, qu'ils ont été soumis à une pression, on va dire, une pression médiatique, une pression publicitaire, qui fait qu'ils essaient, là, par contre, de ressembler à la manière dont vivent ou dont se meublent les bourgeois. Et là, ils n'en ont pas les moyens, donc là, ils prennent du toc. Dans le film, il y a quelques décors, en particulier le décor du personnage principal, qui est une espèce de faux luxe, quoi. On voit bien que c'est pas de la qualité, quoi, et que c'est pas très joli. Mais c'est clinquant, en fait, voilà.
Vous filmez le personnage principal de Maria avec un regard très bienveillant, empathique. On devine que pour vous, ces vols sont totalement légitimes en réalité.
Oui. Il participe à la répartition des richesses en faisant ça, hein, je vous dis, bon. Il lui manque un peu d'argent, elle prend un petit peu ce qu'il lui faut. D'ailleurs, elle le vole avec beaucoup de parcimonie. Hein. Elle prend 10 euros, elle n'en prend pas 20. Elle prend juste ce qu'il lui faut pour pouvoir payer des études de piano à son petit-fils. Et même aussi pour se faire des petits plaisirs. Quoi. Mais je crois que tout le monde a droit à des petits plaisirs. Donc j'aime bien les pies, moi. Les pies en général. Les pies, c'est un ce qui brille. Mais moi aussi, j'aime ce qui brille, en fait. Et puis, elle se paie aussi des heures supplémentaires, d'ailleurs, en faisant ça. Parce qu'elle est très, très dévouée. Et d'ailleurs, au fond, ce qui me choque le plus, en fait, c'est quand elle dit, d'elle-même, elle dit « j'étais bête » parce qu'au fond, si je leur avais demandé un peu d'argent, ils me l'auraient donné. Et ça, c'est grave, c'est-à-dire qu'elle n'ose plus leur demander.
Certains personnages qui semblent n'avoir rien en commun, au début, finissent quand même par se comprendre, voire adopter la même attitude, comme par exemple Monsieur Moreau et son fils. Ça vous tient à cœur, ces ressemblances entre les gens ?
Oui, parce que je crois profondément qu'on est tous pareils, en fait, voilà. Il y avait un proverbe, un vieux proverbe, qui disait « Faut jamais dire en fontaine, je ne boirai jamais de tonneau ». Effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer, voilà. Il peut se passer quelque chose qui fait que on a le même comportement que quelqu'un qu'on a détesté pour ce même comportement quelques années plus tôt. C'est le cas, là, entre le père et le fils. Il arrive au fils, une histoire qui fait penser singulièrement à l'histoire qui est arrivée au père en 30 ans auparavant. Et du coup, il va se déjuger par rapport à son père, il va se mettre à le regarder avec plus de tendresse et de compréhension. Et je crois que, finalement, on devrait tous penser ça les uns des autres avant de se juger, parce que il faut quand même penser qu'on est tous pareils.
Merci beaucoup, Robert Guédiguian.
Voilà, Robert Guédiguian, interrogé par Lisa Giroldini pour la sortie de son nouveau film La Pivoleuse, à voir dès aujourd'hui au cinéma. Dans un gros quart d'heure, on va parler des conséquences du gel des financements américains dans la lutte contre le sida. Ce sera avec le médecin épidémiologiste Eric D'Ortenzio. Pour le moment, il est presque midi en temps universel. Dans une grosse demi-heure, ce sera le retour de l'actualité africaine sur RFI. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour.
À la une ce midi.
C'est désormais officiel, le Mali, le Niger et le Burkina ne sont plus membres de la CDAO. Dans un communiqué diffusé ce matin, la communauté ouest-africaine offre tout de même une période de sursis et le maintien des avantages en matière de circulation des biens et des personnes, le temps des discussions. Et puis la situation à Goma, après l'entrée dans la ville de combattants du M23 et de soldats rwandais, quelques tirs résiduels en périphérie ce matin, mais plus d'affrontements.
Rendez-vous donc Nicolas Sûr à 12h30, temps universel pour Afrique Midi. Pour le moment, un nouveau journal international arrive dans quelques minutes, mais d'abord une petite pause musicale, voilà, et Pat Kalla, le titre Jolie Sarah dans la playlist de RFI.
RFI Midi.
Thank you. acheter, sans voir les jolis souliers et le Panama que patiemment j'attendais depuis plus d'un mois. J'espérais qu'enfin ses yeux soient attirés par tout ça, mais Dieu, elle n'en a pas pour moi. J'aimerais te serrer dans mes bras. Oh, jolie Sarah, je t'aime, mais toi tu ne m'aimes pas.
Jolie Sarah, voilà, et Pet Cala dans la playlist de RFI. Restez avec nous dans un instant, le retour de l'actualité mondiale.